France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Nos archives vous invitent aujourd'hui à rencontrer une grande voix du XXe siècle, une personnalité aussi attachante que singulière, la chanteuse américaine d'origine arménienne Cathy Berberian. En 1969, elle se confiait en français au micro de Jean-Pierre Broutin dans l'émission « Au chat qui pouffe ». Cathy Berberian nous expliquait comment elle concevait les programmes de ses récitals, éclectiques, tout comme son répertoire qui s'étendait de Monteverdi aux Beatles, en passant par sa fameuse Stripsody ou bien encore des œuvres de Luciano Berio dont elle fut l'épouse et l'interprète privilégiée. L'objectif de Cathy Berberian, partager sa passion, divertir, combattre les préjugés et ouvrir les oreilles du public à toutes les musiques.
Cathy Berberian, de retour à Milan, vous venez de terminer un concert à Vienne qui a remporté un triomphe extraordinaire, comme partout où vous chantez, que ce soit à Bruxelles, à Venise ou à Rome. À chaque fois, votre récital remportait l'âge de la presse et l'enthousiasme du public. Selon vous, pourquoi ce succès international alors que les jeunes ont tendance à bouder les cantatrices? Cathy.
Bien. Je crois que c'est parce que j'ai une idée de récital qui est plus proche à la vie quotidienne d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'aime pas la division entre la prima donna et le public. Oui. Je tâche en tout cas de rapprocher pendant le concert le récital avec une présentation immédiate, comme par exemple moi-même, je fais les notes de programme, disons, avec un micro pour être moins pressé comme emploi de la voix. Et je fais tout spontanément parce que je déteste les choses préparées, elles sont trop rigides. Et même avec ça, je commence un rapport avec le public qui est plus relaxant. Et puis aussi parce que mes programmes ne sont pas faits selon la tradition, disons. Pas parce que je n'aime pas la tradition, parce que c'est traditionnel, mais parce que je crois que cette tradition était faite dans une époque où il avait un sens et il y avait besoin peut-être de le faire comme ça, ou quelqu'un, ou quelques-uns ont pensé de faire une chose pareille. C'est-à-dire, on commence avec la musique ancienne, les Italiens par exemple, Monteverdi, et puis on fait une groupe de chansons françaises, le lead allemand, et puis on a l'entracte, et puis comme ça. Moi, je trouve quand même qu'aujourd'hui, on peut faire un récital sans suivre toujours cette tradition.
S'unissent sur la flûte. voici le chant de grenouilles vertes qui commence avec la nuit.
Thank you.
cherches-tu? Je suis la trace du satyre, ces petits pas aux choses alternes comme des trous dans un manteau blond. Il me dit, les satyres sont morts. Les satyres et les nymphes aussi, depuis 30 ans, il n'a pas fait un hiver aussi terrible. La trace que tu vois est celle d'un bouc.
Comment ça s'est passé à Bruxelles au cours de votre récital ?
Bien, j'ai commencé avec deux petites chansons de John Cage, American,
oui.
Que j'accompagne moi-même avec un petit tambour à éventail, oui. Japonaise.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai suivi avec Debussy, chanson de Bilitis que j'adore, j'aimais toute ma vie.
Mm-hmm.
Et puis après ça, j'ai fait un morceau de Bussotti, des fragments de Passion Salonsade. Et puis après ça, j'ai fait les Siete Canciones Populares de Manuel de Falla.
Oui.
Et puis il y avait Sequenza di Berio, plusieurs chansons de Kurt Weill, quelques chansons des Beatles. Et puis j'ai fini avec Stripsody, une composition à moi. Disons, ce n'est pas une composition, c'est un peu de divertissement dans le genre pop art, dans la musique.
Stripsody, c'est très intéressant, c'est très très nouveau. Comment travailler ça?
C'est très drôle parce que tout le monde, quand il entend le titre, dit « Oh, c'est une striptease ». C'est pas du tout, c'est qui vient des bandes dessinées. En américain, on dit « comic strip ». Alors, j'ai pris « strip » et « rhapsody », alors j'ai fait « stripsody ».
Ah oui, c'est ça.
Bien. J'aime beaucoup les jeux de mots. Et alors, j'ai fait aussi comme titre de deuxième composition, aussi un autre jeu de mots. Bien, ce sont les sons onomatopéiques qu'on trouve dans les bandes dessinées, comme Smash et Bang et Slurp et tout ça. Vous devez penser que les artistes qui font des bandes dessinées, ils ont pris le son, ils ont donné un onomatopée, un son qui ressemble, mais c'est toujours visible, naturellement. Alors, moi, j'ai pris ces sons, ces mots, disons. J'ai pris ces mots et j'ai restitué le son original qu'ils voulaient évoquer en tenant compte du mot qu'ils ont inventé pour ça.
Vous racontez des petites histoires, non pas avec des images, mais avec des bruits.
Oui.
C'est un mime de bruit, non de geste.
Oui, tous les deux, parce que dans le concert, on voit, parce qu'il y a... à part les petites scènes qui sont presque comme petites pièces de cinéma,
oui.
ou de radio, il y a un collage, un glossaire,
mm-hmm.
des mots onomatopéiques. Mais dans les scènes, par exemple, j'ai une toute petite scène qui est comme... on dit en italien giallo, détective thriller,
oui. Thriller,
oui, mais c'est tout petit. Et ça commence par exemple avec les bruits des pieds,
oui.
qui arrivent, la porte qui s'ouvre avec un peu de bruit, et puis la mitraillatrice.
La mitraillette.
Mitraillette, oui. Et puis l'homme qui réagit.
Qui reçoit le balle.
Oui. Et puis on écoute le bruit quand il tombe par terre,
oui.
Puis les pas qui s'en vont.
Oui.
Et puis on entend la sirène de
la police
de la
qui
police,
arrive.
Oui, je peux vous donner
cette absence. Oui, c'est intéressant.
On va voir.
Essayez.
Donc, je dois toujours commencer cette petite scène avec les virgules qu'on ne peut pas voir maintenant sur la radio, mais ça fait voir au public qu'une scène est commencée. Stomp, stomp, stomp. Ugh, fud. Stomp, 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 stomp.
Oh, c'est très bon. C'est un comique, c'est un thriller.
Mais vous voyez...
C'est extraordinaire sur scène, faut voir sur scène.
Oui, mais vous voyez que je ne suis pas capable même de le faire sans les gestes, parce qu'une évoque l'autre.
Les gestes jouent quand même beaucoup dans cette,
oui,
ce petit thriller, dans ces petits comics américains.
Oui, mais c'est vraiment une des petites pièces où le geste visible est indispensable.
Oui.
Puis en tout cas, je vous ai donné une petite idée du récital comme j'ai conçu. Et naturellement, ce n'est pas le seul type de récital que je fais. Pour le moment, c'est la seule... c'est un type qui a beaucoup de succès. Je suis en train de préparer une deuxième espèce. J'appelle à la recherche de la musique perdue. Je ferai beaucoup de chansons qui sont démodées, disons, parce qu'on fait des autres choses, parce que le goût est changé, parce qu'on dit que c'est trop kitsch, je ne sais pas. Il y a beaucoup de chansons que j'aime chanter, de Rachmaninoff, de Sibelius, de Grieg. Et je crois que ça sera aussi informatif pour les jeunes gens qui ne sont pas allés au récital il y a 20 ans. Et du moment que je crois que je l'ai attiré au mes récitals, parce qu'il y avait des Beatles en dedans, et la
Beatles,
curiosité, ça. Oui. Je dois dire que ce n'était pas à propos que j'ai mis les Beatles dans mon récital. C'était par hasard que chaque fois qu'on a fait des récitals, l'avant-battage de publicité... faisait surtout le point sur les Beatles. Les Beatles dans la salle de concert. Les Beatles à la Fenice, à Venise.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all on board, many more of them live next door, and the band begins to play. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Et alors, ça a attiré beaucoup de jeunes gens. Et dans le même temps, j'ai présenté des musiques différentes, contemporaines, difficiles même. Et je crois que c'est comme ça que j'espère de créer, d'aider qu'on ait un public des jeunes pour le futur.
Mais beaucoup de gens sont effrayés justement que vous passiez des Beatles à Debussy, Debussy à Berlioz.
Oui, mais je crois que c'est surtout quelques critiques, plus que le genre. Parce que le genre presque n'en pense pas. Il s'amuse et j'espère qu'il réjouit de ce que je fais, parce que moi j'adore ce que je fais, c'est-à-dire je trouve beaucoup de satisfaction dans mon travail et j'aime tout ce que j'ai fait, autrement je ne le ferais pas. Mais en tout cas, je disais que les Beatles, je les fais parce que j'aime les Beatles, j'aime leurs chansons, je trouve que dans leur genre ils sont les meilleurs.
Oui.
Et je ne suis pas seule dans cette opinion parce qu'il y a Berlioz, il y a Boulez, Stockhausen, Canino, Busotti, tous les grands compositeurs sont d'accord que dans leur genre, les Beatles sont insupportables.
Insupportables.
Et aussi, je le fais, je dois le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, des hommes de 40 ans, de 50 ans, qui sont préjugés.
Oui.
Sur la question des Beatles. Mm-hmm. D'abord, peut-être, ils n'ont jamais entendu.
Oui.
Et ils sont préjugés parce que...
Un peu vieux jeu, peut-être.
Oui, parce qu'ils croient que c'est les Beatles qui ont changé tout. On n'a plus la paix, ils ont des protestations. Toute la révolution des jeunes, mm-hmm. C'est commencé par les Beatles. D'ailleurs, je crois que c'est vrai, mais ça n'est pas l'importance.
Mais il faut être très musicien pour aimer les Beatles, ou alors...
Oui, mais dans ce cas, non, c'est pas seulement ça. Les jeunes, gens ne sont pas musiciens, mais il y a un langage d'aujourd'hui qui parle à eux. Mais je le fais pour ces vieux types-là, pour présenter peut-être pour la première fois à eux la musique qu'ils croient de détester. Et à la fin, ils ont des arrangements, disons, classiques, un arrangement baroque, un impressionniste un peu comme Ravel ou Rachmaninoff, comme ça. Mais en tout cas, ils sont forcés d'écouter des chansons et sans le savoir, ils aiment. Oui. Ils aiment cette musique. Mm-hmm. Ils disent, oh, c'est trop belle, c'est pas la Beatles. Mais qu'est-ce que c'est la Beatles? Vous avez changé, l'harmonisation, ce n'est pas les Beatles. Je dis, non, l'harmonisation est parfaitement égale à ce que c'était l'original. C'est seulement le style de la musique qu'on a changé.
Vous êtes une sorte d'ambassadrice des Beatles.
Oui, peut-être. Je ne le fais pas pour...
Pour tous les âges.
Non, parce que j'adore, je les adore.
Thank you. hearts I know that you'll understand my
Vous avez fait un récital à Bruxelles et un concert à Vienne.
Le concert, c'était de Berlioz.
De Berlioz, uniquement de Berlioz.
Ce que j'ai fait, oui. Et le concert, la première partie, c'était Moses und Arn de Schoenberg. Mm-hmm. Et Vienne, c'est assez conservatoire, conservateur comme ambiance. Mais... vous savez, Schoenberg était né en Autriche, je crois. Oui. En tout cas, l'école de Vienne, mm-hmm. on en parle. Mais c'était 40 ans que Moses und Arn n'était pas fait à Vienne. Alors, vous savez, Épiphanie de Berlioz, c'était la première fois, mais il n'y avait pas un public exactement préparé pour tout ce qu'on a fait. Mais quand même, j'ai trouvé que le grand succès de la soirée,
oui.
c'était Berlioz.
Berlioz.
Il y avait les gens qui étaient debout, qui applaudissaient pour je sais pas, j'ai perdu compte des minutes qui sont passées. C'était si étourdissant pour tout le monde.
C'était un grand triomphe. Oui.
Mais c'était bien.
Mais votre récital, bien sûr, il y a un choix qui est très personnel, qui est très extraordinaire, et qui la seule cantatrice à choisir un récital si complet. Mais un récital, ce n'est pas seulement un acte séparé dans votre vie, vous le préparez, c'est quelque chose entier pour vous, vous accrochez au décor, vous préparez la lumière.
Oui, oui, c'est aussi une autre chose que je veux faire pour rapprocher la vie d'aujourd'hui. On est gâté aujourd'hui. En 800, 900, on avait que l'opéra, on avait que théâtre pour les plus riches, enfin.
Oui, je vois.
Et maintenant, on a un public de masse, on a des moyens de entertainment,
de variété,
oui. La radio, la télévision, les sports,
les loisirs en général.
Oui, c'est ça. Alors, on peut pas, on va pas d'une place à l'autre avec les chaises portantes.
Oui.
On va avec la voiture, on va avec l'avion. Alors je crois que l'art d'aujourd'hui doit être présenté avec le langage d'aujourd'hui. Langage, je voudrais dire avec tous les aspects de lumière, comme vous avez dit. Le costume, je le change parfois pour donner une ambiance. Par exemple, la séquence d'Iberio, je ne peux pas le faire avec la même robe avec laquelle je fais une chose très drôle, très spirituelle, comme Stripsody ou même les Beatles. Ce n'est pas le même genre. Alors, je fais des changements de robe, des lumières, même des placements sur la scène. Et je crois que toute ma préparation depuis que j'étais petite, c'était inconsciemment vers ce que je fais maintenant. Parce que j'ai commencé à adorer la musique quand j'écoutais un disque de Tito Schipa qui chantait Barbiere di Siviglia. Et puis j'adorais Fyodor Chaliapin, alors je lui imitais. Comme ça j'ai une voix très bas, de baryton presque, quand je vais dans le grave. Et puis j'adorais Lily Pons, cantatrice française, colorature, et j'imitais elle. Alors j'ai acquis une espèce de colorature, technique de colorature. Et peu à peu, avec des autres intérêts, le ballet, le théâtre que j'ai fait, les études de phonetics, et de prononciation, diction. À la fin aussi les études de dessin de costume, qu'on dit, ce n'est pas couture, c'est parce que je ne sais pas comment comment coudre, mais des dessins.
Dessins, oui. Dessiner vos robes,
oui, oui,
dessiner
oui,
vos bijoux.
C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et j'ai eu de la chance de trouver le gens qui m'aide à créer, à réaliser mes créations.
On vous aide quand même, vous ne faites pas tout vous-même.
Oui. Non. J'ai un type qui fait mes bijoux et j'ai une couturière modeste, mais elle m'aide beaucoup à réaliser parce que il y a tant de détails à faire parce que je n'ai pas un impresario. Je fais tout moi-même, je réponds à toutes mes lettres, parfois, quelquefois en retard, mais parce que je suis en voyage. Mais j'aime faire tout personnellement parce que je trouve que même avec les lettres aux organisations qui veulent mes récitals, un contact personnel.
Un contact personnel.
Oui, c'est beaucoup mieux.
Très chaud, oui.
Les trésors de France Musique.
Give me a few words Ooh. to be. Go.
Vous êtes né en Amérique de parents arméniens et c'est en 1949, je crois, que vous êtes venu en Italie avec une bourse pour perfectionner votre voix.
Oui.
Quand vous êtes arrivé en Italie, quel était votre bagage artistique?
Plus ou moins ce que j'ai raconté, le théâtre, la danse indienne, hindoue, c'est-à-dire espagnole, la danse folklorique, j'étais capable de faire toutes les danses ethniques et peut-être encore parce que je les aime beaucoup et je me rappelle beaucoup.
Dans quelle ville vous avez étudié la danse?
En Amérique, à New York.
À New York.
Ah oui, à New York même. Et la danse, le théâtre.
Qu'est-ce que vous faisiez au théâtre à ce moment-là?
Il y avait des théâtres d'été, le répertoire d'été. Et je faisais là, puis j'ai fait toutes petites choses à la radio, aux télévisions. Mm-hmm. Pas grand-chose parce que j'étais jeune, mais en tout cas, j'aimais beaucoup le théâtre. Et je l'ai étudié, même à Columbia University, le théâtre. Et puis, je connais tous les opéras, je connais le répertoire de concerts, de musique de chambre. Et j'avais l'intention de venir ici pour perfectionner l'opéra, l'opéra lyrique. Mais une fois que j'étais ici, j'ai rencontré Luciano Berio.
Oui.
Et après presque moins qu'un an, on s'est mariés. Et pour quelques années, j'ai presque rien fait. J'ai fait Madame Berio. Et puis, j'ai eu une fille. Nous avons eu une fille, une petite fille. Et après ça, Luciano m'a dit, mais enfin, tu dis toujours que tu es chanteuse, cantatrice, et tu n'en fais rien. Tu dois le faire. Et je te mets dans un programme de concert, de musique contemporaine, et tu le fais, ou tais-toi. Alors, c'était un challenge. Oui. Et ça, j'ai accepté. Et j'ai commencé avec une track que je ne peux pas vous raconter, une track à faire Stravinsky et Ravel. Les trois poésies de Mallarmé de Ravel et Plus Baud qui dit Stravinsky. Et ça, c'était en 1956. Et après ça, C'est 57.
À Milan, votre professeur, c'était Giorgina Del Vigo.
Giorgina Del Vigo, oui. Elle est une maestre formidable parce qu'elle elle traite chaque élève pour la maladie qu'elle a. Oui. Il y a des professeurs du chant qui ont une technique, une méthode, alors ça n'importe pas ce que vous avez qui ne marche pas. Elle vous donne son technique, sa technique, qui peut-être pour elle allait bien, mais pour vous ne va pas.
C'est vrai.
Mais elle a une oreille diagnostique formidable. Je vais quand même aujourd'hui, quelquefois, pour contrôler, parce que c'est comme le médecin, on doit aller une fois, deux fois, trois fois.
Vous avez toujours des contacts très intimes.
Ah oui, parce que c'est important. Quelquefois, quand on travaille beaucoup, ça arrive parfois, une partie de la voix ne marche plus. On ne sait pas pourquoi. Alors, on va chez elle. Et elle me dit, mais c'est parce que tu ne respires plus assez de diaphragme. Et ça. Après quelques leçons, je me remets et ça va tout bien. Mais c'est comme la voiture, on a besoin toujours de revisionner, non? Comment est-ce qu'on dit revisionner?
De révision des voitures. Oui. Vous allez voir Vigo pour réviser votre voix.
Oui. Mais comme ça, j'ai commencé à chanter et il y avait. C'est arrivé que John Cage, l'américaine, était venu en Italie pour faire une musique électronique au studio de Phonologia. À Milan,
que Luciano a créé.
Ou que Luciano a créé en 55 avec Dottor Lietti aussi de la RAI. Et il a appris des petites choses que je pouvais faire, l'imitation de Chaliap, l'imitation de Lily Pons et tout ça. Il a conçu cette œuvre aria pour mezzo-soprano et Fontana Mix qui a un peu rompu les barrières de pensée sur la voix, ce que la voix peut faire. Après ça, Luciano, qui toujours me connaît, qui avait déjà écrit des pièces, mais c'était plus lyrique, il s'est poussé en avant et il a fait des choses merveilleuses, comme aussi Silvano Bussotti. Et à la fin, il y avait quarantaine de personnes, de grands compositeurs qui ont écrit des pièces pour moi, spécialement pour moi. Et le moment, peut-être le meilleur, le plus grand de ma vie, c'était quand Stravinsky m'avait écouté et il avait eu intention de faire Elegy for John F. Kennedy pour un baryton. Il a changé pour mezzo-soprano. Et on a fait trois concerts et un enregistrement avec Columbia. Et on a travaillé ensemble. Pour moi, c'était un rêve parce qu'il est le plus grand musicien. Et pour moi, pas de l'histoire, on ne peut pas faire des choses, mais dans le XXe siècle, en tout cas.
When a just man dies, lamentation and praise, and joy are one. Why the sweet cry? Did he die? The heavens are silent. What he was, what he is fated to become, depends on us. Meaning when
extraordinaire. Luciano est un très grand compositeur.
Oui.
Votre voix a influencé Luciano. Luciano a influencé votre voix. Comment ça s'est passé? Quelle était d'abord votre influence sur lui?
Peut-être c'est mieux que je commence avec son influence avec moi, sur moi. Oui. Quand je suis arrivée, j'étais cantatrice, avec tout ce que ça veut dire, avec même une mentalité un peu bête, c'est-à-dire une gamme de pensées pas terriblement intellectuelles, plus instinctives, émotives.
Oui.
Bien que j'avais un répertoire assez grand, je connais beaucoup la musique, pas seulement vocale, comme d'ailleurs il y a des chanteuses et chanteurs et chanteuses qui ne savent que leur rôle, leur répertoire. Moi, je connais toute la musique parce que je l'aimais beaucoup. Bien, Luciano avait une perspective beaucoup plus large, plus profonde. Il a coupé toutes les idées, il a tué, disons, toutes les idées de chanteuse, de cantatrice que j'avais, et il m'a enseigné la discipline et aussi la recherche, la curiosité artistique, musicale, professionnelle. Et il m'a introduit à une culture européenne, une façon à penser aux choses. Par exemple, je me rappelle toujours qu'une fois j'ai vu un homme vieux qui, pour moi, avec ma mentalité d'ailleurs, j'ai dit, il est laide, il est laide. Et Luciano disait, mais non, il est très beau, il est beau comme vieux. Tu vois pas? Parce que pour moi, tout, c'était jeune, c'était beau. Et c'était une façon de penser que m'a beaucoup ouvert les horizons et m'a beaucoup aidée. Et comme ça, j'ai commencé moi-même à penser aux choses. J'ai fait même, par exemple, les traductions de l'anglais en italien, les bande dessinée de Jules Pfeiffer. Je l'ai fait pour Bompiani. J'ai traduit avec un italien ensemble un livre sur James Joyce. Et bien, le fond de ma culture européenne, je dois à Luciano.
Est-ce que c'est à partir de votre traduction que Luciano a écrit Hommage à Joyce?
Bien, c'était Umberto Eco qui lui a donné l'idée d'employer le texte de James Joyce, même qu'il connaissait déjà le livre, mais n'avait pas pensé à ça. Mais c'était surtout, je crois, ma lecture, parce qu'après qu'il m'a beaucoup enseigné, moi j'ai fait moi-même des expériments pour agrandir les possibilités de la voix, même en parlant et aussi en chantant. Et de toutes les lectures qu'il avait préparées, il y avait 2 lecteurs français et 3 lecteurs italiens. À la fin, il a choisi moi comme matériel pour Hommage à Joyce.
Seis.
Mais pour mon influence sur Luciano, je crois que c'est peut-être, je peux dire que d'abord c'est la voix, naturellement la voix. Ce que se concerne la voix, il connaissait naturellement comme bon italien, il connaissait les opéras et la musique de chambre pour quator et tout ça, parce que oui. dans sa maison on jouait beaucoup. Son père était musicien, et son grand-père, il y a des antennas aussi. On dit antennas, c'est-à-dire les grands-grands-grands-grands-pères.
Oui, tout ça. Il appartient à une famille de musiciens.
Oui, oui, en 1700, il y avait un Stefano Berio qui avait fait... Il dilettante Stefano Berio, c'est très intéressant. Quoi. En tout cas, il connaissait la musique, mais moi j'avais peut-être écouté beaucoup plus que lui, parce qu'il était en Italie pendant la guerre, pendant le fascisme, alors il était jeune, et il ne pouvait pas savoir toute la musique qu'on était libre à écouter dans les autres pays. Ça... Et puis, l'emploi de la voix. Et puis, peut-être le fait que je n'ai pas des inhibitions pour l'emploi de la voix. Alors, du moment qu'il a vu que j'étais prête à faire tout ce qu'il voulait, il a essayé des choses. Il a hasardé des choses. Et je l'ai fait. Quand c'était possible, je l'ai fait. Et peut-être... Mais je crois, en tout cas, deux personnes qui vivent ensemble, ils ont beaucoup de choses à donner qu'on ne peut pas même cataloguer.
On ne peut pas cataloguer, bien sûr, il y a des tas de choses.
L'influence, je crois que c'est égal dans tous les partis. Lui, il le dit toujours, et moi, je le dis toujours.
Mm-hmm. Enfin, ça donnait une création très, très abondante de la part de Luciano et de vous-même, car en fin de compte, à part notre rencontre avec Berio, il y a eu d'autres grands moments dans votre vie, des grandes rencontres.
Oui, il y avait ce que j'ai dit, Stravinsky, il y avait Cage, Darius Milhaud a écrit une pièce pour moi, Haubenstock Chromati, Silvano Bussotti a fait Passion selon Sade, où j'étais la protagoniste, et je chantais trois rôles dans une, c'est-à-dire la différence des rôles, c'était seulement dans la voix. Il n'y avait pas un changement de robe pour changer de caractère, de personnage. Et je faisais Juliette, Justine et O. C'était très drôle. On s'amusait beaucoup. Maintenant, Luciano est en train d'écrire une autre pièce pour moi.
Oui, parce que vous travaillez toujours avec Berio.
Ah oui, oui, toujours. J'ai fait, même on n'est plus mariés, mais on est peut-être plus amis que d'ailleurs. Peut-être parce qu'on n'a plus des frictions de la cohabitation.
Et puis, l'ère de la cohabitation, oui.
Oui. Et en même temps, on était toujours amis. On a besoin l'un de l'autre, toujours.
Vous êtes très complémentaire dans la mesure où lui, italien, est venu, il vit maintenant en Amérique, et vous, américaine, vous vivez à Milan.
Oui, on a échangé des continents. Mais en tout cas, quand il vient en Italie, on est toujours ensemble. Quand je vais en Amérique, on fait la même chose. Je vais chez lui. Peut-être que c'est une chose un peu difficile à expliquer. Ça aussi, c'est peut-être un peu d'avant-garde, ce que nous faisons, mais l'amitié est l'amour platonique, et on a ça, et c'est très beau.
Scegliere sì.
La lune s'est levée, un des folk songs de Luciano Berio, chanté en arménien par Cathy Berberian, avec le Juilliard Ensemble que dirigeait le compositeur. George Gershwin à présent, dans la voix de Cathy Berberian, avec cette version de Summertime, dans un enregistrement de 1970. Summertime de George Gershwin avec la voix de Cathy Berberian pour conclure cet entretien que la chanteuse avait accordé à Jean-Pierre Broutin en 1969. Cette émission est disponible en podcast sur le site radiofrance.fr ou via l'appli Radio France de votre smartphone. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.